pied sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Il faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
L'histoire se passe dans le hameau de Puy-Chérifet, à Grignols, en Dordogne. Elle a été abondamment couverte par le quotidien Sud-Ouest. Le conflit de voisinage a commencé à la fin de l'année 2011 et dure depuis lors. Il concerne une certaine mare d'environ 300 mètres carrés, sise dans la propriété de M. et Mme Pécheras, et les troubles qui s'y produisent plusieurs mois durant la saison chaude. Les fauteurs de ces troubles sont une terrible colonie de batraciens, en l'espèce des grenouilles, qui causeraient des nuisances sonores insupportables au voisinage, enfin à des voisins en particulier, qui ont porté l'affaire devant les tribunaux. Leur coassement, à ne pas confondre avec le croassement de leurs confrères les corbeaux, serait tel que la destruction immédiate de la mare du diable est exigée par les plaignants. Elle aurait été, en plus de ça, construite de manière illégale. Le 30 mai 2012, les 10 voisins ont ainsi mandaté un huissier qui a relevé que le coassement des batraciens avait atteint 63 décibels dans l'une des chambres de leur habitation voisine, la fenêtre ouverte. Cela correspond à peu près au bruit d'une machine à laver, a affirmé M. Pécheras, qui est retraité de la restauration et qui s'est installé là depuis 2003. Or, du point de vue légal, on peut considérer qu'un bruit est fatigant à partir de 70 décibels. Mais pendant qu'ils y étaient, écrit Sud-Ouest, les voisins pas contents ont ajouté à leur plainte d'autres demandes concernant une haie mitoyenne et des bambous qui entraveraient le passage de la lumière vers leurs panneaux solaires. En 2012, les magistrats de Périgueux ont d'abord débouté la plainte, mais 4 ans plus tard, en appel, la cour d'appel a jugé que l'ampleur des troubles excédait les inconvénients normaux du voisinage. Un an plus tard enfin, le 14 décembre 2017, la cour de cassation a confirmé que les Pécheras, c'est-à-dire ceux qui aiment les grenouilles, devront bien combler leur mare. Le couple est d'ailleurs soumis à une astreinte de 150 euros par jour de retard, car la mare devait être comblée dans les 4 mois suivant le jugement de juin 2016. Pendant ce temps, rebondissement, des associations de protection de la nature se sont mobilisées, car 5 espèces d'amphibiens, dont 4 sont protégées, ont été recensées dans la mare. Donc pour casser la cassation et détourner la plainte, une association envisage maintenant d'en devenir le locataire officiel. L'affaire en est là pour l'instant et qu'on se rassure, les grenouilles n'ont pas fini de leur coasser les oreilles. Aujourd'hui dans les pieds sur terre, c'est un autre conflit de voisinage, bien plus dramatique et qui a bénéficié, hélas, de moins de publicité et de soutien que l'affaire des grenouilles, comme on l'entend jusqu'à 14h sur France Culture, un récit de Leïla Djitli.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je m'appelle Madame Rebé, j'ai 2 enfants, je suis veuve et j'habite ici à Essey-les-Nancy depuis 2002. Mon fils il a 23 ans et ma fille elle a 17 ans. J'ai perdu mon mari, donc c'est lui qui m'a, comment dirais-je, encouragée à venir ici, c'est tranquille. Et puis il aimait beaucoup jardiner, oui.
C'est vrai, c'était oui. Un amoureux de la terre.
Un amoureux de la terre, oui. C'était un rêve pour moi de partir des HLM à une maison à moi, que je peux quand même circuler en liberté, la décorer à ma façon. Et tous mes souvenirs, ils sont là, dans cette maison. Que ça soit la petite ou l'agrandissement, tous mes souvenirs, ils sont là. Ça fait depuis 2002 que j'y habite, donc... oui, c'était un projet à nous deux, et pour mes enfants, surtout pour mes enfants. C'est le bien de mes enfants et puis là où je suis, je me sens bien. J'ai visité d'autres maisons, mais c'était un coup de cœur. Pour moi, c'était un coup de cœur parce que y a la verdure déjà, il y a la forêt derrière. C'est ça qui m'a encouragée à venir ici dans le quartier là. tout au début, là, j'ai acheté la maison, la petite maison qui était juste à côté. C'est une petite maison de 74 mètres carrés, trois chambres en haut et une cuisine et salon en bas. Une vieille maison hein, c'est, que j'ai restaurée moi-même. Et puis, après le décès de mon mari, j'ai pensé à ce moment-là à faire l'agrandissement de la maison. Je me disais, c'est un projet pour moi et pour l'avenir de mes enfants. Je suis aide-soignante et donc à ce moment-là, j'ai commencé à consulter les entreprises pour avoir des devis. Et j'ai loué la première maison pour pouvoir arrondir les fins de mois et pour aider mes enfants et pour finir leurs études. Là, actuellement, nous sommes dans la partie de l'agrandissement. Et donc, c'est une maison qui fait 135 mètres carrés. Alors que la première, elle fait 74 mètres carrés. Il y a trois chambres en haut, salle de bain, et en bas, il y a la cuisine et le salon de séjour. Donc, j'avais obtenu déjà le permis de construire en 2010. J'ai contacté la banque et j'ai emprunté de la banque 176 000 euros. Et après, bon, là, je ne sais pas si je le dis, la voisine qui a porté plainte pour trouble d'ensoleillement. Et depuis, là, je vis le cauchemar. Je vis le cauchemar jusqu'à maintenant. Je suis en train de vivre un cauchemar. Ça fait 7 ans. 7 ans, je suis dans la souffrance. J'ai emménagé en 2011 ici. Voilà. Et les entrepreneurs, ils ont commencé à faire la fondation. Et donc, j'ai vu la voisine dehors. Elle me dit, qu'est-ce que vous construisez, Madame Robé? Je dis, c'est l'agrandissement, c'est la maison. Donc, elle a commencé un petit peu à se mettre en colère. Qu'est-ce que vous construisez? C'est une église? Donc, j'ai rien dit dans tout ça. J'ai dit, c'est ma maison, je construis ma maison. Le permis de construire, il a été suspendu pendant 2 mois. Vous ne l'avez pas contesté. Donc, après avoir...
Ça veut dire quoi, il a été suspendu?
Suspendu, c'est-à-dire, normalement, dans la loi, il doit être affiché devant la maison pendant 2 mois. Et la voisine, elle ne l'a jamais contesté. Le pavillon style, ils ont commencé à travailler, tout ça. C'est là où elle a porté plainte, auprès du référé du tribunal de grande instance. Mm-hmm. Donc, comme quoi, le pavillon, il fait un trouble d'ensoleillement sur son jardin, sur sa terrasse. La première avocate, elle me dit qu'elle n'était pas spécialiste dans l'immobilier, donc du coup, elle veut que j'aille ailleurs, chez un autre avocat. Donc, j'ai contacté un autre avocat. Donc, il a accepté le dossier, il a récupéré le dossier de la première avocate et je suis partie en appel. Et j'ai perdu encore en appel. Et donc, il me demande de démolir le pavillon. Pour trouble d'ensoleillement, pareil. Il me demande de démolir la maison ou 150 000 euros. Et après, donc, j'ai été en cours de cassation. J'ai perdu en cours de cassation parce que mon avocate, elle me dit, il juge sur les droits, il ne juge pas sur les fonds. Et donc là, je suis complètement accablée par cette histoire. Et je me dis, j'ai aucune chance. J'ai aucune chance, je vais laisser quand même ma maison se détruire devant mes yeux. C'est pas possible. Je me sens coupable. Alors que je suis pas la coupable, je suis la victime dans tout ça. Alors même si je démolis la maison, je continue à payer la maison. Hein. Là, j'ai un crédit à la banque pendant 25 ans. Ça, c'est grave, quoi. Le dernier jugement, c'est à la Cour de cassation le 7 décembre. Je sortais de mon entretien d'embauche. Donc, j'étais à l'arrêt de bus en sortant de l'entretien d'embauche. Et j'ai dit, je vais téléphoner quand même à la Cour de cassation pour savoir les résultats. J'ai attendu au moins une minute et elle m'a dit, le pourvoi de cassation a été rejeté. Là, j'étais, je ne sais plus où j'en étais là, à l'arrêt de bus. Je ne sais pas comment je suis arrivée à ma maison, chez moi. Et j'ai dit, mais c'est pas possible, encore la troisième fois. La troisième fois, c'est pas possible, ils lui ont donné encore raison. C'est injuste, c'est injuste. Et là, j'ai toujours peur de recevoir l'huissier. Je sais pas quand est-ce qu'il va toquer chez moi pour demander les astreintes. C'est horrible. C'est une vraie ruine pour moi. C'est une vraie ruine. Je sais pas comment que ça se passe. Après la cour de cassation, je sais pas. Je suis confinée chez moi et j'ai peur que ma maison se détruit. J'entends le moindre bruit à côté de moi où c'est des personnes qui font des travaux, tout ça. Et le cauchemar, c'est comme si ils viennent me démolir la maison. Et ça, c'est le cauchemar de tous les jours, de tous les jours. Je suis en dépression en ce moment-là. J'arrive pas à sortir, j'arrive pas à faire des choses, que ça soit pour moi ou pour mes enfants, j'arrive pas. Là, je suis au ralenti. J'ai perdu mon travail, que j'aimerais bien le retrouver, mais j'arrive pas à aller au travail. C'est avec ça, j'arrive pas là, parce que j'ai l'impression que tout le monde me reconnaît, tout le monde me... C'est pas possible. C'est difficile. C'est pas les gens. Les gens, ils me soutiennent. Mais c'est moi, j'ai l'impression que j'ai honte de moi. C'est que j'ai fait quelque chose de pas bien, de construire une maison. J'ai fait un délit ou j'ai fait quelque chose de pas bien. C'est pas possible. J'aimerais bien quand même garder ma maison. C'est tout pour moi, cette maison. C'est tout pour moi. Le pire, je sais pas. Aucune idée. Aucune idée. Avant, j'étais dans le déni. Maintenant, ça y est, c'est comme si que ça va arriver, quoi. Et là, je me dis, c'est pas possible, c'est la fin, quoi. C'est la fin. Je ne sais pas ce qu'elle va demander. C'est moi qui paye les pots cassés maintenant. Je n'ai pas été conseillée par qui que ce soit. C'est inadmissible. Ils savent très très bien que là, dans le quartier de la rue Roger-Bérin, tout le monde construit. Et tout le monde fait de l'ombre à l'autre. Ce n'est pas possible. Moi, le voisin là, il peut me faire de l'ombre. Moi, je ne dis rien du tout. C'est la nature des choses. En plus, sa maison, elle est orientée au nord. Avant que je construise la maison, sa maison, elle était déjà dans l'ombre.
Mais vous connaissiez bien cette voisine ? Vous aviez des relations ?
Non, j'ai pas de relation avec elle parce que la première voisine, elle est partie. C'était une voisine très adorable. Donc elle a vendu la maison à cette bonne femme. Mmh. Et la bonne femme, là, elle a déménagé. Dès qu'elle a gagné au tribunal de grande instance, elle est partie. Elle a loué sa maison à des locataires très sympathiques. Voilà, il n'y a pas de souci avec les voisins-là. J'ai jamais eu de problème, jamais.
Vous avez essayé de lui parler ?
J'ai essayé, j'ai été voir même le maire d'Essey-le-Nancy pour trouver un médiateur, si je pourrais quand même lui parler. J'ai même écrit un mail là où elle habite actuellement, à Bouxières-aux-Chênes. Donc ils m'ont répondu que ce n'était pas possible. J'ai sonné chez elle quand elle habitait ici, mais elle ne m'a jamais ouverte la porte. On se disait bonjour, bonsoir, et puis c'est tout. Mm-hmm. Mais elle a quand même toujours un visage fermé, cette bonne femme. Elle est toujours, toujours avec son caractère très difficile et tout ça. À la maison, elle vivait toute seule. Et une fois, il y avait aussi mes enfants, ils étaient en train de jouer au ballon. Le ballon, il est parti dans son jardin. Et bon, elle n'a rien dit la première fois. La deuxième fois, si le ballon, il vient encore moi chez moi, là, je le balance, je le déchire ou je ne sais pas quoi. Elle était très, 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 très agressive avec moi le jour-là. Mm-hmm. Après, bon, je n'ai pas de relation avec cette bonne femme, là. Je ne la connais pas très, très bien. Mm-hmm. Et je me suis renseignée. Elle a fait déjà des histoires à une dame qui habite à la rue d'Algérie. Elle m'a même... fait des attestations de témoins. Ouais. Elle a tout écrit dans le... Je dis que je vais...
Attendez.
Oui. Ça va le faire, mais après. Oui, mais après, pas tout de suite, parce que là, je suis en train de raconter mon histoire, et après, je te rappelle, après, je te rappellerai.
Est-ce que ça vous a pas étonné, l'histoire de Madame Rebaille et de sa maison ?
Non, pas du tout, ça ne m'a pas étonnée parce que dans le quartier, elle est partie du quartier justement parce que personne ne pouvait... elle a fait des problèmes à tout le monde. Vous pouvez faire la rue d'Algérie, rue du Progrès, rue Victor, tout le monde la connaît. Même il y a un café qui fait l'angle, c'était tous les jours. Ça, que ce soit la voiture qui était mal garée, que c'était tout, tout était bon pour faire des histoires avec les voisinages. Je m'appelle Maria, j'habite à Nancy, rue Victor. Nous avons construit 4 garages en 2004, dont Madame Vincent nous a demandé gentiment de lui donner un garage, sinon elle nous dénonçait qu'on était accrochés à son mur. Nous n'étions pas d'accord, étant donné que les garages, nous les avons en location. Elle a porté plainte contre nous, comme quoi qu'on était cloîtrés contre son mur. Donc, un engrenage. Donc, on a été à une expertise de notre côté, un expert de son côté, au tribunal. Un disait oui, l'autre il disait non. Ils ont fait le trou au niveau du garage. Ils ont vu qu'il y avait un polystyrène qui faisait la séparation. Donc, elle a perdu. On avait l'intention de faire construire une maison au-dessus de ces garages. Elle nous a gentiment dit qu'elle nous la ferait démolir, que sinon qu'elle n'avait pas d'ensoleillement chez elle, sachant que la rue, elle est complètement sombre. Il y a pas de, on voit pas le soleil, ni le matin, ni le soir, ni rien du tout. Donc on a désisté, on a dit c'est pas la peine pour commencer avec elle, avec la bagarre. On en a déjà eu assez avec les garages. On a notre maison, on a laissé tomber. Un problème d'ensoleillement, sachant qu'il n'y a pas déjà beaucoup de soleil à Nancy, ça m'a choquée, franchement. Enfin, choquée, oui et non, parce que bon, elle me l'a dit aussi. Donc, quand j'ai vu le nom, j'ai dit, ça ne m'étonne pas. Vous pouvez demander dans le quartier, c'est toujours le même avocat, c'est les deux mêmes personnes et les deux mêmes personnes qui ennuient tout le monde. Vous pouvez demander, tout le quartier, c'était la terreur. Si elle a fait tout ça, c'est pour l'argent, c'est pas pour un problème d'ensoleillement, parce que d'après ce que j'ai compris, elle habite même pas là. Donc, qu'est-ce que ça peut lui faire, sachant qu'elle est en train de toucher un loyer? Donc, s'il y aurait un souci d'ensoleillement, je pense que personne n'habitait, encore par-dessus, en train de payer un locataire. C'est chez vous, vous devez subir ce que vous avez. Mais si vous n'êtes pas chez vous, vous payez, vous partez si vous n'êtes pas content. Donc, ça veut dire que c'est tout à fait vivable. Quand elle est partie du quartier, on était contents. On a dit enfin, on s'en est débarrassé.
Un café, de l'eau.
Du thé, là, j'ai préparé du thé.
Bon, je me présente, Joël Krauss. Je suis de formation technique. J'ai fait un DST thermodynamique parce que je me suis longtemps intéressé aux problèmes d'isolation thermique dans le bâtiment. Donc, les problèmes d'ensoleillement comptent. Et puis, je suis architecte des PLG. Et en lisant cet article, un vieux réflexe, je pense, qui est lié à mon éducation protestante sur mon aversion des injustices. Bon, je pense que c'est la base qui est un peu expliquée. Dès que je suis venu ici, j'ai senti, mais entre sentir et ne plus pouvoir l'exprimer, c'est passé un moment. J'ai senti que ça paraissait impossible qu'une maison ait perdu tout son ensoleillement en voyant la façade sur rue ensoleillée. Parce que je connaissais comme la rue depuis mon enfance. Donc j'ai vu, oui, je connaissais, j'ai un ami qui habitait en début de rue. Donc ça m'a paru très drôle, quoi. Et aussitôt, j'ai pris mes stylos et j'ai dessiné les schémas que je vous montre. Il y a un dossier de justice qui est complètement aberrant, quoi. Ne serait-ce que dans le principe tout simple que vous comprendrez bien, c'est que si une maison comme celle-ci qui a une façade sud et une façade nord, si la façade sud est au soleil toute l'année, la façade nord est dans l'ombre portée de la maison. Et ils ont oublié, dans les conclusions, de parler de l'ensoleillement de la façade sud, si bien qu'on condamne Mme Robet, parce que les façades nord de Mme Vincent est à l'ombre, naturellement, mais on lui attribue la responsabilité avec son pignon. Et après, en analysant le dossier, j'avais la sensation, j'ai fait aussi une spécialisation de méthodologie, qu'il y avait un loup. Et en décortiquant, je me suis aperçu qu'il y avait tout un processus de mensonge par omission. C'est-à-dire qu'on oubliait de citer les choses qui pouvaient être positives pour Madame Rebut. La maison voisine est ensoleillée au total de 3933 heures, plus 253 heures sur la façade arrière. C'est de ces 253 heures qu'elle a été privée. Donc c'est quand même un chiffre très bas, c'est-à-dire 6,4% de l'ensoleillement qui ont disparu à cause de la construction de Madame Robé. Et d'autant plus, les avocats, l'expert n'a pas pu dit non plus qu'il y avait une baisse d'intensité en fonction du moment où on se rapproche du coucher du soleil. C'est pas chouette. Deuxièmement, la voisine a dit qu'elle avait perdu de la luminosité avec sa maison. Alors, il faut rappeler que la lumière ressentie par un bâtiment, c'est lumière solaire plus lumière du ciel, les lumières zénithales. Alors, dans notre région, on a un jour sur trois qui est rien qu'en zénithal à cause de la couverture nuageuse, mais disons qu'on ne peut pas plaider d'avoir perdu de la luminosité parce qu'il faudrait mettre un parapluie au-dessus de la maison voisine. Il faut une patience d'ange pour faire tout ça.
Vous avez passé combien de temps?
Oh, je ne sais plus. C'est une cause de divorce.
C'est vrai?
Oui, moi j'en ai marre de Madame Rebail. Mais parce qu'il passe toutes ses soirées, enfin toutes j'exagère, mais de nombreuses heures, et particulièrement le soir, parce qu'il aime bien se coucher tard, avec ses abacs, avec ses calculs pour Madame Rebail. Voilà. Donc vraiment, il a passé des heures et des heures. Ça, je ne pourrais pas quantifier comme ça, parce que je n'ai pas fait de dessin, mais vraiment, il est complètement passionné et concerné par cette affaire. Vous savez sûrement que c'est exceptionnel qu'on demande la démolition de maisons, d'une part parce que c'est des toits et qu'il n'y a pas assez de toits en France, donc c'est quand même exceptionnel. Et surtout, il faut bien dire aussi que c'est dans une rue où toutes les maisons sont, sinon mitoyennes, très proches les unes des autres et portent ombre les unes aux autres. Donc Madame Rebail, quand elle aura un moment, elle pourra faire la même action contre son voisin. Donc c'est aberrant.
Maintenant, il faut attaquer l'expert qui a menti par omission d'une manière éhontée.
Ah oui, donc c'est sans fin.
Oui, c'est une folie, quoi. Alors, le problème, c'est comme on dit toujours, dans un combat, même si vous êtes attaqué injustement, vous êtes puni puisque vous subissez le harcèlement lié à une procédure, quoi. Madame Rebé est en train d'arriver au bout, elle explose. Et je la comprends parce que vous imaginez qu'on vous menace de démolir votre maison, vous ne dormez plus la nuit, quoi. Et encore si c'était justifié, mais c'est même pas justifié. C'est vraiment...
Vous venez d'où, Monsieur Kroos? Vous venez de quel coin? Vous êtes du coin ou pas du tout?
Bah oui, moi je suis du coin, je suis un Lorrain pur, j'habite...
Ça fait plus sens, parce que... Rebail, la que faire?
Monsieur le maire, il a fait un article récemment comme quoi, parce qu'il y a eu des commentaires par rapport au permis de construire, c'est la faute de la mairie, pourquoi ils lui ont accordé le permis de construire. Mais lui, il a répondu, c'était pas la mairie, la voisine, elle avait le droit de porter plainte.
Et là, vous êtes il y a un comité de soutien autour de vous?
Une association qui est créée depuis 2016 et elle y est toujours. Avec mes collègues de travail. Donc, ils me soutiennent énormément. Je les remercie beaucoup. Voilà. C'est moi qui dois faire venir des entreprises pour démolir la maison. C'est à ma charge. Je dois démolir. Je dois payer pour démolir ma maison, non seulement. Et je dois continuer, après la démolition, je dois continuer à payer les échéances du prêt que j'ai contracté à la banque. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me soutiennent, qui ont signé pour moi, pour la pétition et tout ça. Mais après, est-ce qu'il y a une issue après ça? Parce que c'est très, très difficile de vivre une chose pareille pendant 7 ans. Psychologiquement, j'ai été quand même contacter un médecin. Il m'a fait dernièrement le certificat médical. C'est une souffrance de tous les jours. Tous les jours, je me réveille avec ça, je me réveille tout le temps. Même la maison, le jardin, vous voyez, là, je n'ai pas d'élan, j'ai pas cette force pour aller travailler. J'ai pas cette force, c'est tout. On a l'impression que j'ai fait quelque chose de très, très, très mal. Je ne sais pas si je peux le dire. Parce que je suis typique, je ne sais pas, c'est vu mes origines, tout ça, Je me sens coupable. Je sais pas. Ils disent peut-être les gens, elle est étrangère et elle a deux maisons. C'est ça qui me travaille dans ma tête, quoi. Alors que j'ai travaillé dur. Donc je me retrouvais quand même toute seule avec mes deux enfants. Et puis mes enfants, ils comptent quand même sur moi parce que là, ils ont quand même perdu leur père. Et là, il reste que la mère. Ils vont me tuer. Je suis condamnée à la mort, pour moi. Parce que c'est toute ma vie ici. La maison là, c'est toute ma vie. J'ai investi pas mal d'argent et l'argent de mes enfants. Pourquoi me priver de tout ça? Pourquoi priver mes enfants de tout ça? C'est pas possible. Donc c'est incroyable, c'est juste incroyable.
Je n'ai pas peur de la route, faudrait voir, faut qu'on y goûte, des méandres au creux des reins, tout ira bien. Le vent l'emportera. Charge à la grande ours, la trajectoire de la course, l'instantané de velours, même s'il sert à rien. Le vent l'emportera, tout disparaîtra. Le vent nous.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre, Faire de l'ombre, un reportage de Leïla Djitli, réalisé par Clémence Gross. Sachez que depuis l'enregistrement de cette émission, il a été confirmé que Madame Rebet devait payer entre 50 et 80 euros par jour d'astreinte. Elle souhaite bien sûr rouvrir son dossier en faisant procéder à des contre-expertises, mais elle n'a hélas plus les moyens de payer un avocat. Amis avocats, à bon entendeur. Heureusement, aidée par des soutiens, Madame Rebet a quand même écrit au président de la République qui, j'en suis sûre, en fera une affaire prioritaire. Merci à elle donc, à Sarah Rebet, à Monsieur et Madame Gross, à Maria Alfaya et à Christophe Gobin de l'Est républicain, l'agence de Nancy. Sandrine Chaperon, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre et Céline Autin, c'est notre stagiaire.